Salut, c'est François et bienvenue dans le podcast La Muse, où on crée notre créativité tous les mercredis matins dès 5h. Et en général, on a un invité avec qui on va parler de sa passion pour nous-mêmes plus tard pouvoir nous en inspirer. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est avec Margot Delevaux qui est journaliste, présentatrice et auteur. Margot, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Mais super, je te remercie. Merci d'être là, ça fait plaisir.
Bah, merci de me recevoir, c'est cool.
Et je te propose qu'on commence sans transition directe avec une première question que je voulais te poser. Pourquoi le nom de ton livre, il est si long?
Pourquoi il est si long? Bah écoute, déjà, j'ai pas tellement choisi. Tu sais, c'est la maison d'édition en général qui va te guider un ouais. peu là-dessus. Il est si long parce qu'il y a deux parties. Donc c'est un livre en fait qui se retourne. C'est un peu le but, je trouvais cool d'avoir ce concept-là. Donc il est long parce que 30 manières, ça reste long. Et parce que tu rencontres et que tu quittes. Donc ouais. C'est pour ça, voilà.
Il y a les deux parties.
Il y a les deux parties, exactement.
D'accord. Donc, je vais peut-être juste dire le titre pour ceux qui savent pas forcément. Alors, je vais essayer de le lire correctement. C'est 30 manières de quitter l'amour et de le retrouver, / 30 manières de trouver l'amour et le quitter. C'est juste.
Ah ouais, alors, normalement,
c'est pas ça.
30 manières de trouver l'amour et 30,
d'accord.
Et de le quitter, quoi, en gros.
Ah bah,
c'est
il
ça.
Est pas si long, en fait.
Il est pas si long. Ça va, ça va. Mais moi, je le trouve déjà trop long, tu vois. Je le trouve déjà trop long, personnellement.
Bah, la Fnac m'a menti, du coup.
C'est ça, c'est à cause de la Fnac. Exactement.
C'est marqué dans certains, comme ça. Tu devras leur dire.
Ouais, bah, grâce à toi, du coup, maintenant, je sais et je vais regarder, je vais corriger ça, ouais.
Super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Est-ce que t'as fait une école de journalisme? Par où un petit peu t'es passé? Pour ouais. en arriver là, maintenant.
Alors, écoute, moi, j'avais un postulat de base, c'est que je voulais surtout pas payer pour mes études. Mmh. Pour moi, c'est impensable de payer pour l'éducation. Donc, j'ai choisi de partir en Belgique, à Bruxelles. Donc, c'est une école qui s'appelle l'IEX, qui est extrêmement, professionnalisante. T'as des studios radio, t'as des studios TV aussi. Et j'aime beaucoup la manière d'enseigner et de vivre des Belges. Donc, voilà, je me suis exportée pendant 3 ans là-bas. Donc, tu passes un concours d'entrée, etc. En tout cas, à l'époque, c'est quand même un petit moment. C'est à 10 ans. Un peu plus, ah oui. Même. Donc, à l'époque, j'ai fait ça comme ça. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup la bougeotte. Donc, j'en ai eu marre de Bruxelles et j'ai décidé d'aller en France et de passer les concours de journalisme français. Et il y a qu'une école, en fait, qui est vraiment publique, qui est liée à l'université de Strasbourg, qui s'appelle le QEJ, donc le Centre d'enseignement du journalisme. Et voilà, j'ai passé le concours franco-allemand. Parce que je parle un peu allemand, c'est quelque part dans mon cerveau, j'ai un peu perdu, mais voilà.
Mais c'est bien, ça ouvre les portes.
C'est hyper cool, surtout en Suisse en tout cas. Et puis, j'ai passé le concours franco-allemand et j'ai fait la première année à Freiburg. C'est à l'université Albert Ludwig quelque chose, tu vois, je me souviens même plus. Et ensuite, la deuxième année, j'étais à Strasbourg.
D'accord.
Et proposer une délocalisation, c'était ça qui me plaisait dans le cursus, qui est très rare en journalisme. Donc on est parti un mois à Guangzhou, en Chine, pour faire des reportages. Wow. C'était hyper cool. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit à fond.
Ah oui, j'imagine.
Donc, voilà.
Ah ouais,
c'était top. J'ai des souvenirs assez impérissables tu fais deux reportages par jour, tu rencontres plein de gens, tu te confrontes au métier, tu comprends un petit peu aussi dans quoi tu veux t'orienter, si c'est la radio, la TV. Maintenant, c'est un peu plus... On essaie un peu de fédérer les médias et de dire, voilà, on est journaliste, point. Mais à l'époque, c'était vraiment, ok, est-ce que tu veux faire le multimédia? Est-ce que tu es en radio? Est-ce que tu veux être en télé? Et moi, j'avais choisi radio et multimédia, ouais.
Waouh, mais quelle
voilà,
expérience.
En résumé,
tellement de voyages, mais c'est super.
Ouais, mais il faut bouger, il faut voir un peu des cultures différentes, t'enrichir de tout ça pour, si tu veux comprendre ce dont tu parles, quoi.
C'est clair. J'ai une question bête, mais qui me vient à l'esprit parce que j'ai
bien
Bruxelles.
Mais il n'y a pas de question
Bruxelles.
Bête, vas-y.
Les frites, elles sont meilleures ici ou à Bruxelles?
Alors, honnêtement, non mais là, je vais me faire démonter par tous mes potes belges. Honnêtement, il y a une friterie à Genève qui s'appelle le Belga. Alors, c'est des Liégeois, donc c'est des Belges, tu vois. En Belgique, les Liégeois, c'est vraiment... voilà. Et ils ont absolument toutes les sauces. Ils ont le poulet croque, la fricadelle, enfin voilà. Et j'y suis une fois par semaine.
Ah donc, oui, d'accord.
Ils ont un choix de bière assez incroyable, donc je conseille. Mais évidemment que ça n'a pas la même ambiance, ça n'a pas la même saveur que Bruxelles, mais c'est un petit bout de Belgique à Genève qui est vraiment cool.
Mais voilà. Super, mais je pense que j'y ferai un tour alors.
Il faut absolument, il
ça
faut.
Ça me dit bien.
Ouais.
Bruxelles, j'adore.
Ah ouais, Bruxelles, c'est un truc de fou. Enfin, c'est multigénérationnel. J'ai jamais rencontré autant de gens facilement dans une ville. T'as une espèce de tolérance ambiante qui a pas forcément
partout.
Ça se ressent
tellement.
Ouais.
C'est fou. Du coup, Revenons un petit peu plus dans le sujet. Je me suis un peu éloigné, mais bon, la nourriture, c'est important.
Ouais,
quand
très
même.
C'est important, un sujet très important.
Qui tient à cœur. Et je voulais te demander quels étaient tes projets un petit peu actuels, les émissions que tu fais en ce moment. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu?
Alors, bah, là, récemment, j'ai lancé le Rancard, pour la RTS. Ça va être la troisième saison maintenant, donc c'est pas mal, ça passe très vite. Donc c'est un format quotidien sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et sur l'app d'RTS Info. Et c'est vraiment tous les jours du lundi au vendredi à 17h. C'est une forme de résumé de l'actualité du jour. Donc moi je me dis que c'est vraiment une porte d'entrée sur l'actualité. Et ce qui est assez chouette et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens d'aller plus loin. Donc à la fin de chaque rancard, tu as accès aux sources et aux liens. Par exemple, si je parle d'une étude, les gens peuvent la découvrir jusqu'au bout et vraiment creuser le sujet, tu vois. Donc ouais. Ça, c'est assez cool.
Il y a ce côté un petit peu plus proche, du coup, où ils ont juste à cliquer pour avoir l'info.
Exact, ouais, c'est
creuser
ça.
Creuser encore plus. Comme
tu vois, t'as tous les outils Insta, les sondages, ouais. Les liens, ça, c'est quand même très pratique. Et récemment, on a lancé le rancard du week-end. Donc, ça m'en fait 6 par semaine, ce qui est un rythme voilà, de prod assez intense. Et là, je développe un sujet vraiment unique pendant une trente à peu près. C'est un peu plus informel, je m'éclate plus dans l'écriture. C'est aussi sur un fond vert, donc ça change un peu esthétiquement voilà, le rendu. Et ça, voilà, ça m'occupe 120% du temps. Voilà.
Ah oui, j'imagine, 6 jours.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, je tourne en général le rancard le vendredi, le rancard du week-end, le vendredi. Et je l'écris entre mercredi et jeudi. Ouais.
D'accord. Trop bien. T'es en train de me spoiler toutes les prochaines questions.
Mais c'est ça, parfait. Ouais, je te donne toutes les infos. Je te balance
bien.
Tout d'un coup.
On prend, on écoute. Ça fait plaisir. T'inquiète pas. C'est trop bien. Et du coup, dans tout ça, c'est quelle partie de ton job que toi tu préfères?
Oh, la question horrible. Qui est tellement dure à répondre. Alors. Bon là, tu me prends dans une semaine un peu particulière parce qu'on est allé à Fribourg pour la première édition du Suisse Fondue Festival et ce qui a un peu illuminé, c'est vrai ma semaine, c'était pas forcément de manger des fondues, voilà, toute une journée parce que j'adore ça, mais j'ai un peu saturé au bout du 15e morceau. Mais c'est surtout les rencontres en fait, c'est de sortir des murs de la RTS et de rencontrer ton public parce que moi j'échange énormément sur les réseaux avec eux, mais vraiment je réponds à tous les messages, je peux en louper évidemment parce que ça me prend beaucoup de temps en plus de produire le rancard, mais c'est un bonheur de confronter les gens, d'avoir des retours qui me donnent des idées, c'est très pur en fait et très authentique. Et je pense que ça, il y a très peu de journalistes aujourd'hui qui ont accès à leur public de manière aussi facile.
C'est vrai.
Puis moi, tu vois, je me balade en rue, en vélo, enfin, je rencontre vraiment beaucoup de gens. Et ça, pour moi, c'est le plus précieux dans mon job et la partie ouais vraiment que je préfère, vraiment.
C'est une jolie partie. Et je me demandais, quel moment tu t'es dit, tiens, j'aimerais vraiment présenter ma propre émission, faire mon propre truc, j'ai envie de me lancer là-dedans.
Alors, dans le monde des médias, ça ne se passe pas comme ça. Tu proposes des choses, tu proposes des projets, tu te fais rembarrer, tu te plantes. Moi, j'ai commencé à la RTS en faisant de la vidéo textée. Donc, ça a été très formateur. Je suis devenue voilà, une machine sur Première, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que je m'épanouissais pas chaque jour. Voilà. Et c'est une idée qu'on a eue avec ma productrice et chef Amélie Boguet. Donc on a lancé ça voilà il y a 3 ans, en plein Covid. Moi j'étais dans ma cuisine, c'était hyper artisanal. On aurait pu totalement se planter. Ça a pris parce que je pense que les gens étaient aussi chez eux. Donc ils avaient du temps pour regarder voilà les médias, consommer des médias. Ils voulaient être informés évidemment sur le Covid. Donc ça faisait sens si tu veux. Mais ouais, le but c'était vraiment de proposer un résumé de l'actualité du jour sur un ton un peu plus détendu. Moi, comme je te dis, c'est très artisanal. Enfin, les gens sont hyper surpris. Tu vois, j'ai un petit micro à chef. Je m'autofilme. Enfin, j'ai pas d'équipe. Je viens avec les mêmes chemises douteuses qu'aujourd'hui. Enfin, voilà, je suis pas maquillée en conséquence. En fait, c'est très léger comme dispositif. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est de sortir du carcan un peu télé où t'es maquillée pendant une heure, où tu fais hyper gaffe à ce que tu dis. Ça paraît hyper trivial, mais où on t'habille. Moi, là, je suis vraiment dans ma personnalité, enfin je parle comme je te parle maintenant, tu vois, c'est très informel. Et pour moi c'est ça qui est important, c'est de proposer aussi une personnalité et pas seulement des infos. Et je pense que les gens s'attachent aussi, enfin j'espère, à ça, j'espère. Et c'est un peu naïf de ma part, mais c'est ce que je vis, j'ai vraiment l'impression de tisser un lien avec ce public là et de pouvoir avancer, me remettre en question chaque jour. Et ça c'est génial quoi.
Trop bien, en plus de ça, ça laisse plus libre cours à ta créativité.
Exactement, ouais. Exactement. Et même, tu vois, on a un truc que moi j'avais pas anticipé, c'est le côté de créer des scénettes en fait, de mettre en scène l'actualité. Donc tu vois, des fois je vais tester un truc, je vais mettre en scène, je vais faire des blagues, je vais oser plus de choses que si par exemple j'étais au 12h45 ou au 19h30. Voilà, c'est une grosse machine, il y a beaucoup plus de gens. Nous on est finalement deux par jour en fait, donc c'est peu, tu vois. Donc on a une rapidité de production qui est énorme. Et ça, pour moi, c'est très cool parce que dans cette créativité-là, c'est ultra spontané. Et ça, pour moi, ça vaut tout.
Ça, c'est vraiment ce que permet les réseaux sociaux.
Ouais, oui, totalement.
Disais, ouais, c'est un contact totalement différent, mais c'est intéressant. Je vois que ça te plaît bien, tu t'épanouis bien là-dedans.
Ah
ça
ouais,
fait
totalement.
Plaisir.
Puis tu vois, tu postes aussi, en fait. Donc, ouais. J'ai un rôle un peu de community manager parce que je poste moi-même mon propre contenu. Je modère mes commentaires, je réponds. Enfin, c'est vraiment très, très complet. Et je pense que je dépasse un peu justement le journalisme. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu frileux de répondre à leurs trolls, à leurs détracteurs, etc. Moi, j'adore ça. Parce okay. que, en fait, encore une fois, ça me remet en question et ça me donne des idées de sujets. Ça me stimule aussi dans la manière de présenter, tu vois, de présenter le rencard, de savoir que, voilà, là, j'ai pas fait bien ou là, j'aurais pu faire mieux. Et pour moi, ça, c'est top.
C'est génial. Donc, tu disais, le rencard, ça t'est venu dans la cuisine, comme ça, Covid oblige. T'as une anecdote un petit peu drôle?
Franchement, c'était tous les jours drôle. Enfin, honnêtement, j'ai eu des galères, ma coloc qui débarque. Oui, et puis tu vois, t'as toujours des problèmes de son. T'en as plein en fait. C'est vrai que c'est difficile. J'ai pas un truc en tête. J'ai des épisodes qui m'ont énormément marqué. Par exemple, le Montreux Jazz, les délocalisations, on appelle ça comme ça. Donc on est allé à Fribourg, on est allé à La Tcho. Enfin voilà, ça a été toujours un peu rocambolesque parce que tu vois, tu montes à moitié dans le train. C'est très en mouvement en fait. C'est vraiment un format qui évolue toute la journée parce que je rajoute des news en fait toute la journée. Tu vois, pour coller au plus près de l'actualité. Mmh. Donc en fait, il y a aucune journée qui se ressemble quoi. Parfois, je me filme dans des bois et t'as des gens qui débarquent avec leurs chiens, qui commencent à me raconter leur vie. Et en fait, j'aime bien tchatcher, donc forcément, je me laisse dépasser par le truc. Enfin, voilà. Et au final, je me retrouve vraiment en galère à être en retard pour le rencard. Parfois, j'ai pas ce qu'on appelle l'ouverture. Donc, c'est vraiment le sujet avec quoi tu ouvres l'émission. Des fois, ça m'est arrivé d'être en galère et pas d'avoir d'ouverture avant 15h30, 16h.
Ah oui.
On essaie en gros de boucler l'émission, enfin le format. L'émission, ça sonne un peu télé, mais c'est vrai que ça parle plus aux gens. Le format à 16h30, et parfois, ouais, t'es en galère jusqu'à... Allez, 16h20. Et là, dans ces moments-là, ah oui. tu transpires un peu, quoi. C'est un peu chaud.
Clair.
C'est un peu chaud.
Ah oui. Petit coup de stress.
Ah,
surtout
un petit coup
si
de stress,
c'est tous les
jours
comme ça.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut vraiment gérer le stress. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a... En fait, c'est extrêmement dur à enseigner, mais je trouve que dans les écoles de journalisme, ils ont pas cet enseignement-là du stress. Et je vois beaucoup jeunes stagiaires, journalistes qui débarquent à la RTS et qui se disent, mais c'est ultra stressant. C'est ultra stressant. Enfin, il y a plein de, je veux dire, dans mes journées, c'est rare que j'ai le temps de déjeuner, de me poser.
Ah oui,
je cours partout. Enfin, voilà, le rythme est très intense. Et je pense que ça, vraiment, il y a un truc où il faut bosser là-dessus et être capable d'être créatif. Même sous le stress, sous la contrainte, sous la remise en question permanente, etc. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup appris ces dernières années. Et ouais, ça prend. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux
l'apprendre. Sur le terrain.
Ouais, voilà, sur le terrain en tout cas. Ouais. Mais en école, on nous forme pas du tout à ça, quoi.
Non, c'est clair. Bon, j'espère que ça a pas trop découragé, excusez-moi, des potentielles personnes qui étaient intéressées. Mais ça
si
va.
Je pense,
oui.
Si je pense, ouais.
Mais peut-être qu'il faut justement.
Oui,
parce
oui.
C'est la réalité.
Oui, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité du métier.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu vois, le journalisme, c'est très. On imagine Albert Londres avec un calepin, un appareil photo sur l'épaule droite. Enfin,
ouais,
c'est pas ça. C'est vraiment, tu passes beaucoup de temps derrière l'écran. C'est extrêmement stressant. Moi, j'ai 5 écrans, tu vois.
Ouh, oui, quand même.
Je compte le smartphone avec, mais à la fin de la journée, je te cache pas, t'as les yeux explosés. C'est dur de décrocher aussi des réseaux sociaux. Ça, c'est assez compliqué. J'essaie de le faire, mais c'est complexe. Il y a une petite forme d'addiction qui se crée forcément parce que tu mélanges et le professionnel et l'intime. Tu vois, moi, j'ai mon smartphone, c'est aussi mon smartphone privé. Enfin, voilà. Heureusement, si j'en avais deux, je m'en sortirais pas.
Six écrans,
mais ouais.
Ouais,
non, c'est ça. Là, on oublie. Et c'est vrai que parfois, c'est dur de faire la frontière entre l'intime et le professionnel est un peu compliquée. Ouais. Mmh.
Et est-ce que parfois, t'as des sujets qui te sont imposés?
Non, jamais.
Jamais.
Ah non, non.
Libre cours.
Ah non, non, mais jamais. Non, non.
à ce que t'as envie, en fait, à ta créativité, comme on disait, tout simplement.
Ouais. Alors, la seule chose qui s'impose, c'est l'actualité. Mm-hmm. Quand t'arrives le matin, moi, ma journée, elle commence assez tôt. Enfin, tu vois, je commence à écouter la radio sous la douche, etc. Pour avoir un peu, quand j'arrive, après mon petit vélo à la RTS, d'avoir vraiment... Il y a des sujets qui s'imposent. Chaque jour, t'as une ouverture qui est quand même assez évidente. Tu vois, ce qu'on appelle l'actualité dominante du jour. Ouais. Moi, j'essaie souvent d'avoir une actualité suisse, mais parfois, bon, ces derniers temps, tu vois, avec la guerre en Ukraine, avec voilà tout ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, les élections, etc. Ça s'impose de soi. Tu vois, forcément, tu vas dire, Bien sûr. Je vais d'office en parler. Donc, c'est l'actualité qui va t'imposer le sujet. Mais par contre, non, personne me souffle à l'oreille quoi dire, surtout pas, au contraire. D'accord. Là-dessus, j'ai une liberté de choix qui est assez énorme. Et la ligne éditoriale est assez claire, c'est-à-dire que j'ai l'actualité dominante, donc suisse, après internationale. Et ensuite, j'essaie vraiment d'avoir, tu vois, des initiatives constructives, des projets. Je parle beaucoup des mouvements sociaux, de féminisme, d'écologie. Ça me tient aussi énormément à cœur. Et parfois, il y a des gens qui m'envoient des sujets et je les traite, en fait. D'accord. Donc, ça les étonne beaucoup, mais c'est cool. Et j'adore qu'on m'envoie des sujets. Et en fait, ça m'inspire beaucoup. Tu vois, ça, c'est un processus créatif qui est partagé. En fait, les gens ont leur mot à dire dans mon processus créatif. Trop bien. Donc, c'est collectif. Tu vois, il y a un peu une émulation créative avec les gens qui se créent, et ça, je trouve ça incroyable.
Trop bien. Et est-ce que t'as une technique un petit peu pour tenir ce rythme qui est quand même bien extrême, je dirais presque?
J'aimerais la connaître. J'aimerais savoir. La technique, c'est hyper cheesy, mais c'est la passion. Enfin, je me verrais pas faire autre chose, donc pour moi, ça, voilà, ça coule dans mes veines. Mais non, la technique, c'est d'être très bien entouré. Je suis très bien entouré, j'ai beaucoup de chance. Mais ça me prend aussi du temps, voilà, d'entretenir les relations humaines, beaucoup les amitiés. Je compte beaucoup sur mes amis, qui me donnent aussi énormément d'idées, qui vont me faire des retours sur le rencard. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, on m'a dit, c'était super, les sujets étaient vraiment hyper concernants. J'ai vraiment eu l'impression que tu me parlais à moi, etc. Et puis des fois ils vont me dire, non mais là tu nous as parlé de ça totalement à côté de la plaque, hyper inintéressant, voilà.
Ah oui, ils sont directs.
Ah non, mais j'adore. Moi je suis très franche aussi, donc j'attends la franchise de mes amis. Et voilà, moi je pense que ça c'est mon équilibre, c'est d'être très bien entouré et de chérir les gens qui sont dans mon entourage. Et puis peut-être aussi l'équipe, j'ai beaucoup de chance, parce que c'est pas moi qui monte le rencard, c'est des monteurs et des monteuses, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à bosser avec eux, et ça éclaire mes journées, tu vois, dans une galère, un regard, un sourire, un café offert, et en fait, ça repart, quoi, enfin... Ouais. Je suis assez simple là-dessus, tu vois, j'ai pas besoin de trucs grandiloquents. Moi, tu me sers un café, tu me mets la main sur l'épaule, ça suffit, bon. Quoi, mais...
Tant mieux.
Et puis, je suis de nature très, très optimiste et très combative, donc honnêtement, pour passer une mauvaise journée, il faut y aller. Enfin, j'ai la peau dure, même quand c'est... Le niveau de stress atteint un paroxysme, en général, j'arrive à me tempérer, moi. Mm-hmm. Et à me dire, genre, c'est bon, c'est cool, de toute façon, ça sert à rien de stresser, c'est à toi que tu fais du mal, en fait, tu vois, c'est... Mm-hmm. Donc voilà, je respire et ça repart, quoi.
Ok. Si jamais t'es stressé, tu me dis un petit café.
C'est au ça. Cas où. Non, là ça va. Non, là au contraire, je me non, sens très très à l'aise. Mais...
Bah ça fait plaisir. Et est-ce que t'as un petit peu une habitude quand tu prépares tes émissions? De nouveau, ça fait un petit peu très télé, comme je dis, mais est-ce que t'as une petite habitude pour te mettre dans un mood? Peut-être écouter une chanson, quelque chose. Je sais pas du tout.
Bah franchement, très très bonne question. Je suis très dans les rituels. Je ritualise beaucoup mes journées. Enfin, c'est très millimétré, si tu veux. Et pour aller dans les détails, mais oui, j'arrive à vélo, donc tu vois, déjà je suis un peu l'air frais, etc. Sur mon vélo, je n'écoute pas les news, j'écoute que du gros son qui va me motiver en arrivant, qui va me booster. Je cache pas que dans la journée, je suis quand même beaucoup dans ma bulle, notamment quand j'écris. Je peux être un peu chiante avec mes collègues s'il y a du bruit, vraiment, tu vois, je me mets les écouteurs intra en mode ok, là j'écoute personne et je me mets dans ma bulle. Et là c'est beaucoup de musique, je digue beaucoup de musique dans la journée, donc je suis vraiment sur Spotify, j'ai des playlists, enfin voilà, ça participe beaucoup au fait que je passe des bonnes journées. La musique, c'est très important. Et puis après, oui, c'est l'art de se mettre bien, c'est d'échanger deux trois sourires. J'ai les collègues qui passent, qui me racontent des anecdotes, voilà, c'est assez cool, quoi. Je sors beaucoup aussi, j'aime bien marcher le midi. En général, je suis assez rarement à passer une heure, tu vois, dans un resto le midi. J'aime bien prendre un sandwich, aller faire les puces, voilà. C'est des rituels, tu vois. Tous les mercredis, je suis aux puces. Ça, en général, je loupe pas trop. Et j'ai telle personne avec qui je vais déconner sur tel sujet, qui est sur tel stand. Enfin, voilà. La mère d'un pote aussi qui est au puce, à qui je vais dire bonjour chaque mercredi. Enfin, ça m'apporte beaucoup de bonheur dans mes journées. Et ouais, c'est à peu près tout, quoi. Mais marcher, ça m'amène beaucoup, tu vois. Par exemple, il me manque un sujet, je vais marcher, je vais écouter un podcast, justement, j'en écoute beaucoup le midi.
La muse, peut-être.
Ouais, pas, de temps en temps. Oui, je l'ai écouté avant de venir, exactement.
Trop bien.
Donc ça m'aide beaucoup. Et je lis, j'essaie de lire un peu les journaux, j'essaie. J'aime bien le support papier, donc j'essaie aussi de m'informer comme ça.
Ok. Et je voulais revenir un petit peu sur le côté réseaux sociaux, du coup, qui est très important dans ce que tu fais. C'est vraiment le cœur un petit peu de l'activité. Et je voulais te demander s'il y avait un nouveau réseau que par la suite, on t'aimerait bien exporter le Rancard dessus.
Je me suis rendu compte que le Rancard, il a été pensé pour Instagram principalement. Que par exemple, TikTok, c'est des codes très différents. Et en fait, exporter, tu vois, c'est comme un contenu télé, tu ne l'exportes pas comme ça, brut. Pour moi, sur les réseaux, il faut le retravailler, il faut le mettre en forme, il faut penser au graphisme. Moi, je suis extrêmement sensible au graphisme. Et en fait, il faudrait que je fasse une autre forme de rancard pour TikTok, par exemple. Après, oui, on a pensé à avoir un rancard, par exemple, uniquement sonore, mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Donc, il n'y a pas de nouveaux réseaux sociaux où j'aimerais implémenter le rancard. Il y a plus des autres manières de raconter, des grammaires de l'image un peu différentes. Par exemple, j'aimerais vraiment ritualiser, justement, le fait de sortir, le fait d'aller à des événements, le fait de prendre le train spontanément et te dire « Ok, là, il y a un truc, ça m'intéresse. Il y a une expo, j'y vais.
Direct.
Voilà, je me rends sur place, etc. » Je vais pas mentir, il y a des journées, c'est impossible. Je sais pas, t'as des rendez-vous, l'actu ça n'arrête pas, il y a des trucs qui tombent, enfin c'est, tu vois, des fois t'es vraiment accroché à ta chaise, tu cours pour aller faire vraiment les sujets, donc ça, il y a des journées c'est impossible, mais j'aimerais vraiment davantage sortir, me rendre sur place, d'aller aussi voir un peu ce qui se passe ailleurs qu'à Genève, donc voilà. Puis le côté un peu, bon après c'est personnel, mais ça m'intéresse beaucoup le côté un peu plus rural, tu vois, de pas toujours aller à Lausanne, Neuch, Fribourg, voilà. Sortir un peu de tout ça, aller aussi un peu dans les montagnes. J'aimerais beaucoup faire je l'ai pas encore annoncé, mais j'aimerais beaucoup faire un rando rancard. Tu vois, par exemple.
On a les exclus.
Ouais,
là,
c'est ça. Tu vois, par exemple, faire, je sais pas, le Molaison et vraiment partir. Let's go, on y va. Voilà. J'aimerais aussi beaucoup, peut-être même suivre un chauffeur routier, tu vois, qui fait une étape et moi je pars, enfin très tôt le matin avec lui ou elle de Genève et puis voilà et puis il me lâche, je sais pas, à Basel ou enfin. J'aimerais beaucoup, ça me plairait, tu vois, ce côté un peu itinérant, un peu nomade, voilà, ça j'aimerais beaucoup, et je vais vraiment vraiment essayer de développer ça ces prochains mois, et voilà, toutes les idées sont bienvenues évidemment, mais...
Trop bien, je vois qu'il y en a déjà beaucoup.
Ouais, il y en a, c'est non bien. Mais là je t'en sors, après ça peut durer des heures, mais j'ai pas mal d'idées, donc je vais essayer de faire ça, ouais.
Trop bien, et je voulais revenir un petit peu plus sur l'aspect technique, comment on crée le rancard, avec quel matériel on fait ça?
Alors le matos, c'est vraiment bon, déjà nous on monte sur Mac, sur Premiere, qui est vraiment mon logiciel préféré pour monter, parce qu'en plus on est lié à After Effects, donc on peut vraiment s'éclater, et Photoshop aussi, donc ça permet pas mal de choses. Moi c'est très simple, hein, c'est un smartphone, j'ai un micro HF, j'ai un bras assez extensible, donc je n'utilise pas. J'ai des membres assez longs, donc des jambes pratique. Et des bras assez longs. Donc c'est assez pratique pour me filmer, mais tu sais que c'est un truc, c'est assez marrant parce que les gens m'ont demandé, ouais, t'as un selfie stick, comment tu fais? Je suis là, non, les gars, vous oubliez, moi, c'est mon bras droit. Donc là, il est plus musclé que le gauche, c'est assez ridicule, mais tant pis. Et vraiment, c'est vraiment assez artisanal. Donc je m'autofilme, j'ai pas de lumière particulière, c'est vraiment la lumière naturelle, je mets pas de filtre évidemment, parce que ça aussi on me l'a beaucoup demandé, donc j'étais un peu déconcertée. Donc voilà, le matos concrètement c'est ça quoi.
Tout simple.
Rien de plus. Hein.
Nomade presque.
Ouais, vraiment, c'est pour ça qu'on peut le délocaliser et être... C'est vraiment un dispositif très léger, et moi c'est ça qui me plaît. Tu vois, quand j'ai appris le journalisme, on était avec les grosses P2 sur l'épaule, qui étaient super lourdes, etc. Enfin... Même les Nagra, ils étaient très lourds maintenant pour le... Bah là, je vois, tu vois, ton micro, c'est assez simple, en fait, assez léger. Donc ça... J'ai vu un peu cette évolution-là et ça me plaît beaucoup de pouvoir moins se prendre la tête et être plus spontané. Et ça amène, en fait, dans ta créativité, ça t'amène à vraiment être plus sur le texte, tu vois, à être moins sur le dispositif et le matos et vraiment développer le texte, tes répliques, les punchlines, etc. Et ça, c'est cool.
Ouais,
c'est très cool.
C'est vrai. Ça laisse plus libre cours, comme tu dis, à l'imagination, à tout ça. Et même, justement, comme tu disais, je trouve intéressant. C'est vrai que le matériel est beaucoup plus accessible maintenant.
Et moins cher. Et ça, c'est aussi cool. Exactement. Ça veut dire que tout le monde peut créer, tout le monde peut lancer un podcast, format, etc. Donc, c'est top.
Si on avait les prix de l'époque, ça n'existerait pas, la muse.
Ouais, c'est clair. Non, mais je comprends, hein, bien sûr.
C'est clair.
Bien sûr.
Je voulais revenir un petit peu sur ton livre. 30 manières. Je vais pas développer le reste parce que c'est bon.
Mais 30 manières de, souvent, c'est comme ça. 30 manières de. Ouais.
Parfait. On va garder ça, ça sera plus simple. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu, bon, t'en as présenté un petit peu au début, mais un peu plus en détail ce que c'est.
Donc c'est un livre qui a été créé quand j'habitais à Bâle, pardon, parce que ça fait vraiment pompeux à Bâle.
À Bâle.
Donc j'étais responsable éditorial d'une maison d'édition, donc j'ai fait un petit détour dans l'édition, qui était très cool d'ailleurs. Et l'idée est venue d'un lunch avec des collègues où je racontais que voilà, moi je trouvais que c'était, enfin, que les gens osaient pas forcément dans la rue aborder les gens, qu'on se regardait peu. Enfin, je revenais de Bruxelles, donc j'étais très, tu vois, très dans l'immersion belge. Et je disais, mais c'est fou, à Bruxelles, tu rencontres des gens très facilement, que ce soit dans un rapport amoureux ou amical. Et je disais, mais il faut lever la tête, il faut oser aller aborder, etc. Et mes collègues me disaient, mais écoute, t'es bien sympa, mais moi, j'arrive pas, quoi. Je suis hyper timide, j'ai pas les codes, j'ose pas, etc. Et moi, j'aurais dit, mais c'est là, et ça résonne un peu avec ton podcast, c'est là que la créativité est hyper importante, c'est de tu vois la petite phrase qui va faire que la mise en scène, oser se tourner en ridicule, tu vois, moi j'ai pas du tout peur d'avoir honte ou du ridicule, enfin donc ça me sert beaucoup dans mes journées. Et en fait je me suis dit, ok, ben on va proposer une espèce de un manuel pour voilà rencontrer et en même temps quitter, parce que je pense qu'on peut aussi quitter en étant créatif sans forcément blesser, tu vois, mais
ouais.
D'ajouter un petit peu de magie, de lyrisme, de dans les rencontres, dans le fait de quitter quelqu'un. Et en fait, ça a commencé à me venir, voilà, j'ai demandé à mes potes, je me suis remémoré aussi des souvenirs, il y a beaucoup de moi dans ce bouquin,
et
ouais, il y a du vécu, mais il y a surtout aussi beaucoup de vécu de mes potes. Et en fait, ça a pris, donc j'écrivais le soir en plus du taf, j'écrivais le soir, le bouquin, il a été vraiment bouclé en 2 mois, c'était très rapide, parce qu'on avait des, voilà, au niveau de l'impression, on était un peu pressé, et puis en fait, c'était assez naturel de se dire, voilà, on va proposer du matériel, donc tu as du matériel pour faire des rencontres, tu as des niveaux de difficulté,
ouais, j'ai
donc il y a
ça,
des manières, ouais. Tu vois, c'est un peu mon côté geek, ça j'aime bien, c'est, donc voilà, ça c'est assez cool. C'est des choses qu'on a pensé évidemment aussi avec mes collègues, enfin tu vois, un processus créatif, t'es jamais seul, donc ça c'était aussi chouette d'en parler. Et puis ouais, ça s'est fait très naturellement. Je m'intéresse beaucoup à l'art de rencontrer les gens, aux relations amoureuses aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup imprégné dans mon processus créatif. Et en fait, tu te rends compte que t'as des manières de rencontrer les gens mais complètement dingues, et des manières de quitter aussi. Et ce bouquin, c'est ça, c'est un peu la somme de tout ça.
C'est un petit peu un manuel, comme t'as dit, un résumé.
Ouais, exact. Ouais, c'est vraiment un manuel de rencontre et de quitter, quoi. Voilà.
Ouais. Ok. Et du coup, quand le prochain?
Ah non. Je redoutais cette question.
Ah.
Non, alors, je sais pas si je dois vraiment le dire. Non, mais en gros, j'ai un projet plutôt de littérature jeunesse, donc de livres pour enfants, qui est fini, qui est bouclé. Faut que je l'envoie, faut que je me bouge. Honnêtement, c'est tellement, enfin, le rancard est tellement énergivore que j'ai du mal, honnêtement, à me remettre là-dedans le soir, les week-ends. J'ai aussi envie de vivre des choses.
Oui, c'est bien aussi.
Et pas toujours juste, enfin, tu vois, il faut se nourrir pour pouvoir après sortir cette créativité. Donc le prochain, il est écrit. J'aimerais beaucoup avoir un illustrateur ou une illustratrice. Encore une fois, il faut que je mette tout ça en place. Mais je suis assez contente, j'ai fait ce truc-là. Si tu veux, moi, pour me pousser à créer, j'ai un peu 3 manières de faire, qui ressemblent un peu à ce qu'on vit maintenant dans cette espèce de cocon que t'as créé, ce studio cocon, avec des draps
vraiment,
et qui fonctionne extrêmement bien. Donc j'ai chez moi un paravent en rotin, bref, et j'ai un tout petit bureau. Et en général, je me mets là-bas pour écrire, donc j'ai écrit un peu le bouquin à ce moment-là, et je m'octroie une fois par an, une semaine de vacances, seule, où là, en général, j'en profite pour écrire, j'en profite pour vivre des choses avec des gens, bien manger, être dans l'épicurisme. Dernière fois, j'étais en Bourgogne, justement, pour écrire ce bouquin pour enfants, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pour moi, en tout cas, la meilleure manière de créer. Et donc, la troisième manière aussi, c'est, je pense comme énormément de gens font, c'est d'aller dans les cafés, de te perdre dans les cafés de grandes villes. Bon, Genève, ça me manque parfois. C'est un peu plus dur d'être créatif, mais tu vois, là récemment, j'étais à Berlin, je me suis posée dans les cafés, j'ai marché toute la journée, et ça m'a vraiment nourrie, j'ai rencontré plein de gens, ça m'a donné plein d'idées, de sujets, de livres, etc. Et c'est vraiment 3 processus créatifs que j'aime faire, et c'est un peu de ça que naissent les bouquins. Voilà.
D'accord.
Mais c'est vachement important, tu vois, de savoir qu'est-ce qui, toi, va t'amener à créer. Il y a des gens, c'est vraiment d'être seul, de se mettre dans leur bulle, de parler à personne, de couper le téléphone, etc. Moi, j'ai un peu des deux, donc... des fois, j'aime beaucoup la foule et l'anonymat de la foule et de me sentir faire partie d'un tout. Et parfois, j'ai besoin, donc comme je te disais, de prendre une semaine de vacances et de parler à personne, de couper le téléphone, de couper tous les contacts avec famille, amis, etc. Et de dire, ok, là maintenant, tout le monde me laisse tranquille et j'essaie, parce que c'est difficile, de créer. Voilà.
Ouais, ça donne cet équilibre un petit peu.
Ouais, totalement, besoin, totalement.
Ouais. Et du coup, au niveau de l'éditeur, j'ai vu que c'était Helvétique.
Ouais, c'est ça, Helvétique,
ouais. C'est toi qui les as contactés.
Mais je bossais pour eux. Ah, donc j'ai été responsable éditorial pour eux. Non, mais ça aide clairement, hein. Ça aide clairement. Oui, oui. Donc je bossais pour eux et j'avais des super collègues et voilà. Trop donc c'était cool.
Et c'est pas toi qui as fait, parce qu'ils font aussi des jeux. C'est pas
oui,
toi
ils
qui
font des
Bandido,
jeux.
Bandido, parce que j'aime
Bandido.
Trop
ma Bandido. Bandido. Mais non, c'est pas moi qui ai fait, mais j'ai beaucoup défendu ce projet parce que c'est un de mes jeux préférés.
Mais génial.
Helvétique. C'est marrant que tu me parles de ça. C'est vraiment, si ce n'est le jeu préféré, en fait, en vrai.
Il est trop
j'adore.
Bien.
Ouais, ouais, il est méga cool et les gens adorent. C'est vrai qu'on l'a, ouais, ouais, on l'a beaucoup testé dans les foires, etc. Non, le monde du jeu, c'était passionnant parce que t'as des auteurs de jeux aussi. Ça, c'est une créativité, mais folle, quoi. Moi qui étais pas tellement fan des jeux de plateau, qui connaissais très peu, etc. Je suis plus, voilà, j'étais plus dans le côté bouquin. Mais je me suis vraiment beaucoup autoréalisée à faire les foires, voilà, des jeux, à rencontrer les auteurs et autrices. Enfin, c'était top, quoi. C'était une bonne partie de ma vie. C'était 2 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup boosté dans ma créativité. Mais voilà, après, j'avais besoin de revenir au journalisme. Enfin, c'était évident que j'allais y revenir, si tu veux. Mais ouais, je pense que c'est important aussi de découvrir des mondes un peu autres, tu vois, de pas toujours, enfin, de te nourrir de plein d'influences différentes. Enfin, moi, je suis pas trop monomaniaque à toujours regarder les mêmes choses, je trouve qu'il faut multiplier les sources pour toi-même être un peu, créatif et sortir quelque chose de différent, quoi.
C'est clair. Ça t'aide, ouais, comme t'as dit, à nourrir cette créativité. Mmh. Et pour revenir un petit peu au tout principal, donc le livre, mais le journalisme aussi, c'est quoi le plus grand défi que t'as dû relever jusqu'à présent? Elle est pas simple, cette question.
Ouais, elle est pas simple. Elle est pas simple parce que honnêtement, il y en a beaucoup. Et je pense que chaque jour est un défi. C'est un peu cliché, mais honnêtement, non, mais vraiment, parce que tu vois, moi, quand j'arrive le matin, c'est une page blanche. Donc, je vis vraiment chaque jour comme un défi. Je pense, honnêtement, une période vraiment qui a été stressante et riche d'apprentissage, c'était quand j'ai bossé pour France Culture et que voilà, je débarquais à Paris. Enfin, je connais très bien Paris, c'est cool. C'est une, voilà, c'était pas une première, mais où on te donne à peine un enregistreur parce qu'il y en a plus, où tu dois vraiment mais te démerder, mais c'est hallucinant. Et oui, j'ai fait des fois 2 reportages et demi, voire 3 par jour. Enfin, c'était vraiment violent. C'était vraiment violent, mais j'ai énormément appris. Enfin, moi, je pense, voilà, je suis très hyperactive, donc j'adore quand ça bouge. Je me verrais pas faire des journées où je m'ennuie, mais même 5 minutes, tu vois. Enfin, bon, je m'ennuie très rarement. J'ai toujours des trucs à me repasser dans ma tête, grâce à mon, voilà, l'imagination, etc. Mais c'est vrai que ça a été une période très, très haute en rendement, si tu veux. Et ça, c'était un grand défi de me dire, OK, là, on y va, on sort de sa coquille. Voilà. Non, en fait, le plus gros défi, c'est vraiment de sortir de la radio et de prêter mon image. Ça a été le plus grand défi de ces dernières années, d'accepter de passer derrière la caméra, de me réconcilier avec mon image, de travailler dessus, parce que ça se travaille. Tout se travaille, en fait. C'est ça que je veux dire aussi. Et je pense que ça, on le répète pas assez, mais la créativité se travaille aussi, se booste.
C'est clair.
Voilà. Et j'ai dû beaucoup, vraiment... Parce que moi, à la base, je voulais pas du tout montrer mon image. Pour moi, c'était la radio, c'était mon média de base. Voilà. Bon, une fois qu'ils ont filmé la radio, je me suis dit, OK, autant le faire bien. Enfin, tu vois, autant que ce soit bien fait. J'avais plus le choix. J'ai dû sortir, voilà, de ma coquille et de me dire, OK, maintenant, il faut prêter son image et incarner, tu vois. Donc, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, ce qui m'a vraiment aidé. Donc, ça, c'est une clé que je peux donner. C'est, si les gens sont pas trop à l'aise dans leur expression corporelle, voilà, ça aide beaucoup. Ça aide aussi à articuler le théâtre. Donc, c'est vraiment très précieux. Donc ça a été vraiment le grand défi de me dire, OK, maintenant, il faut y aller, il faut s'assumer, il faut aussi arrêter d'être dans un syndrome de l'imposteur, de se sentir illégitime. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en tant que femme. Un peu de se dire, OK, je suis là, j'ai les armes pour, j'ai énormément bossé et c'est OK, en fait. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'incarner le truc et voilà. Mais ça a vraiment été, et franchement, je t'avoue que je suis encore là-dedans, de me dire genre... OK, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi toi? T'es pas mieux qu'un autre ou une autre? Mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, tu bosses pour et il faut aussi se dire, OK, c'est OK, je suis là et je mérite. Voilà. Et ça, c'est vraiment mon défi de tous les jours. Ouais.
Et c'est quoi ton plus beau souvenir dans cette activité?
J'aime pas ces questions parce qu'il y en a tellement. Non, mais franchement, c'est très difficile. Dans cette activité, tu veux dire le rancard, le journalisme...
Le tout,
ok. Un souvenir parmi d'autres, honnêtement, c'est tellement... Là, je pense que je vais plus utiliser quelque chose de personnel pour... voilà. Parce que sinon, des souvenirs, j'en ai chaque jour. Un très beau souvenir, c'est quand j'ai enregistré mon grand-père. Parce que j'aime beaucoup la... ce qui est encore un petit peu différent du journalisme, c'est la création radiophonique. Donc, c'est une forme... c'est décrit comme ça, mais ça va au-delà de ça, c'est de l'art sonore, donc ça va être par exemple des Hörspiel, ça va être du reportage, ça va être de la fiction, c'est vraiment comme des, tu vois, des courts-métrages, mais qu'avec du son. Et je voulais absolument en faire un sur mon grand-père, qui est un être vraiment très particulier, un sage, on va dire, qui a passé des décennies sur les mers et les océans du globe, qui a vécu un peu comme un marginal toute sa vie, et voilà, j'ai fait un portrait sur lui, je l'ai accompagné pendant... plusieurs jours, donc ça dure 20 minutes, ce qui est énorme en radio, c'était du miel, c'était, je sais pas comment le décrire autrement, c'était du miel, j'ai découvert plein de choses sur mes grands-parents, sur la manière dont ils m'ont éduqué, etc. Et je l'ai accompagné faire les poubelles, parce qu'il se nourrit dans les poubelles depuis toujours, donc dès que je le vois, il me file des sacs Ikea de bouffe, enfin bref, moi j'adore. Ça, c'est cool. Et tu te rends compte que vraiment, on jette énormément de choses, que le gaspillage alimentaire, il est réel encore aujourd'hui. Et voilà, et c'était un moment incroyable. On était, je vais pas citer l'enseigne, mais on était dans un hypermarché. Et lui, il avait une petite manière d'ouvrir les grilles avec un loquet. Enfin, voilà, non, mais c'est méga cool. Et donc, on a ouvert la grille un peu de manière illicite, etc. On a sorti tout ce qu'il y avait dans les bennes, il y avait des fleurs, il y avait des fruits qui étaient encore, mais même pas tapés, t'as tout, quoi, t'as même des choses pas périmées, hein, c'est ça que je trouve, ça dépasse l'entendement, quoi.
C'est fou.
Ouais, c'est incroyable. Et donc là, on a chargé les sacs Ikea, voilà, on a mis dans ma vieille bagnole tous les sacs et tout. Et il y a le directeur de l'enseigne qui est venu et qui m'a vu avec, mon micro, donc j'enregistrais, ça peut être aider des gens qui veulent se lancer là-dedans, avec un Zoom H4N. Ce qui pour moi est vraiment un très très bon enregistreur, on peut vraiment bien le manier et tout. Et ça a été compliqué parce qu'il nous a un peu heurté, il nous a vraiment engueulé, dégagé de là, etc. Et en fait, on a le droit concrètement d'aller prendre les poubelles si les bennes sont en dehors du domaine privé. Et là, c'était pas vraiment le cas. Donc on s'est fait un peu tout petit et en fait, mon grand-père a commencé à nous faire mais une scène, à parler une autre langue. Enfin voilà, et moi je l'ai un peu suivi, si tu veux, dans ce délire-là. Donc ça, c'est vraiment un souvenir impérissable avec lui. Et c'est des moments, moi j'appelle ça des instants suspendus, quoi. C'est là où tu t'improvises acteur. Enfin, tu te crées un délire dans ta tête, et quand l'autre te suit sans même que finalement vous parliez, tu vois, c'est un peu le côté.
Connexion.
Ouais, c'est ça, c'est le. Tu sais, on se sait, quoi. Tu vois, on se comprend en un regard, on capte. Et j'adore ces moments-là, et ça, c'est vraiment un des moments, pour moi, ça dépasse le journalisme, tu vois, j'ai utilisé le journalisme pour faire ce projet-là, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et oui, un jour, j'aimerais avoir des écrits sur mon grand-père, je l'ai énormément enregistré, j'ai des heures de rush sur lui, j'ai beaucoup de photos aussi, parce que j'ai fait un peu de photos, j'avais le photojournalisme en option, donc j'en ai fait pas mal, bon, maintenant, je le fais vraiment pour le plaisir, un petit peu d'argentique, mais voilà, ça prend aussi beaucoup de temps. Je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a des phases dans la créativité. Là, je suis vraiment dans une phase plus d'écriture. J'ai été beaucoup dans le son, je vais y revenir, je le sais, mais voilà. Et il faut accepter que c'est mouvant, voilà, c'est mouvant et c'est des cycles, en fait. Et c'est aussi totalement OK d'être à court de créativité, de te sentir vidé, tu vois.
Ça peut arriver. Hein.
Ça peut arriver, et ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, quand t'as une période comme ça où tu te sens un peu lessivé, t'as plus de jus, quoi, ça revient. Et souvent, ça revient plus fort. Mais moi, je pense faut pas le forcer. Et je vois beaucoup, parce que, voilà, dans mon entourage, je suis vraiment entourée de plein d'artistes, de gens qui créent. Enfin, on peut créer même sans faisant de l'art. Enfin, en étant, je sais pas, pour moi, on peut créer chaque jour dans son métier. On peut créer avec son copain, sa copine. On peut créer, voilà. Pour moi, la créativité, elle est vraiment dans chaque détail du quotidien. Et il faut pas forcer. Je pense que c'est vraiment ça le maître mot d'être créatif.
Faut avoir cette souplesse un peu.
Ouais, c'est ça. Et se lâcher un peu la grappe quand tu sens que ça vient pas, va boire un verre, sors, marche, ça va revenir, quoi.
C'est ça. De toute façon, ça reviendra.
Oui, j'espère. Tu sais, le contre-exemple, quelqu'un pour qui ça n'est jamais revenu.
Oh, j'en connais pas, mais...
Ouais, mais c'est possible. Et
il y en a un qui va commenter, mais ça fait 10 ans.
Ouais, c'est ça, c'est jamais revenu, c'est ça, exact.
Là, ça sera embêtant.
Exact.
On se sentirait un peu mal, du coup.
Désolé, ouais.
Bah, voilà. Et je voulais te poser une question que je trouve intéressante. même si je les trouve toutes intéressantes, mais si j'avais envie de commencer le journalisme, là maintenant, ou d'être présentateur à la télé ou à la radio, ou n'importe qui, tu me donnerais quoi comme conseil pour débuter ?
Déjà, d'être absolument sûr, parce que c'est un cursus qui est long, qui est compliqué. Personnellement, j'ai fait des dizaines de stages pas payés. J'ai dû déménager comme ça en un mois, à boucler valises et cartons. Très rapidement, j'ai vécu dans plein d'endroits différents. Donc si on n'est pas prêt à bouger, déjà pour moi, si t'es pas prêt à bouger, journaliste, c'est pas pour toi. Voilà. Si tu n'es pas prêt à faire des horaires absolument dantesques avec des heures sup, c'est pas pour toi. Et si t'es pas curieux, c'est pas pour toi. Enfin, je fais un peu le pendant, mais non, voilà, mais pour moi vraiment, si tu veux être journaliste là, il faut être curieux, extrêmement ouvert d'esprit. Savoir mesurer ses propos, comprendre ce que c'est l'objectivité, la déontologie, l'éthique. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment le terreau du journalisme. Donc ça, pour moi, l'éthique, la déontologie, il faut apprendre le droit aux médias, enfin, le droit des médias. Donc malheureusement, je trouve très difficile de devenir journaliste si t'as pas fait de formation. En Suisse, on a le CFJM, on a l'Uni de Neuchâtel si on veut passer par des études universitaires. Moi, je dirais vraiment, il y a peut-être plein de collègues qui vont me tuer en disant ça, mais commencez par démarcher la presse quotidienne régionale, proposer des piges, voilà, essayez soi-même de commencer à écrire, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai pris des stagiaires, alors je cache pas, j'en prends peu parce que ça me demande du temps et une énergie assez folle, parce que j'ai envie de les accueillir bien et de justement pas les dégoûter du métier, donc ça me tient à cœur de faire ça. Parce que voilà, dans ma carrière, j'aime pas dire ça, mais c'est oui, on a tous des carrières. Dans ma carrière, il y a quelques personnes qui m'ont tendu la main, mais honnêtement, très peu. C'est un domaine très concurrentiel où il y a beaucoup de coups bas. Les journalistes osent pas le dire, mais moi j'ai aucun problème à le dire. Donc c'est voilà, faut vraiment avoir les épaules solides et surtout ne pas se prendre au sérieux, quoi. Ne pas se prendre au sérieux. Je trouve que l'ego des journalistes parfois est vraiment immense. Et moi, je pars du principe déjà que on est juste des relais de l'information. Donc, on est là pour mettre en valeur les autres, tu vois. On est là pour tendre le micro. On est là pour vraiment être pointer ce qui va pas, se faire vraiment l'avocat du diable. C'est très important. Moi, après, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de faire des études en journalisme. C'est là où tu vois vraiment si t'es fait pour le métier ou pas. Les stages, c'est le moment où tu sors de l'idéalisme et tu dis. Ok, c'est ça la vraie vie d'un journaliste. Et là, c'est nécessaire. Pour moi, les stages, c'est vraiment le plus formateur. Voilà.
Mais c'est bien. Tu mets face à la chose.
Ouais, vraiment, parce que j'ai pas envie, tu vois, de donner un truc hyper édulcoré, hyper fantasmé, etc. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne entre quatre yeux et me dire, ok, c'est comme ça. Tu vas en chier. Mais tu vas t'éclater, tu vas rencontrer tellement de gens. Moi, j'apprends tous les jours, tu vois. Vraiment, dans mon métier, j'apprends tous les jours. Je pense que dans tous les métiers, t'apprends tous les jours. Mais je trouve que j'ai choisi, en tout cas, ce métier-là parce que je voulais me confronter à plein d'univers différents, des manières de penser aussi. C'est très important de diversifier ça. Et je pense que le jour où j'apprendrai plus, alors je changerai, quoi. Je ferai autre chose. Ce journal, je pense, n'arrivera pas. Je me le souhaite. Mais honnêtement, le jour où j'apprendrai plus, je ferai autre chose. Voilà. Okay. Ça, c'est un peu mon créneau.
Ouais. Tu sais déjà dans quoi ? Au cas où, t'as un plan B ?
J'aime beaucoup la céramique, mais je sais que il faudrait refaire des formations et je m'estime pas du tout être très talentueuse, mais en tout cas ça m'apporte beaucoup de plaisir. Ouais, mais écoute, j'ai une pote céramiste qui est vraiment professionnelle et je vois que voilà, parce qu'il y a toujours, tu vois, ça aussi faut le dire, il y a toujours la passion et vivre de sa passion. Et moi, j'ai choisi un métier passion. Honnêtement, parfois, ça peut te dégoûter. Je pense que j'ai des gens autour de moi qui ont un métier passion, en fait, qui les a totalement dégoûtés de leur passion. Du coup, bah, c'est perdu et c'est très dommage. Tout comme il y a des gens qui arrivent de vivre de leur passion. Et ça, pour moi, c'est très personnel, mais je trouve ça magnifique parce qu'en fait, je pars du principe que, comment dire, pour moi, le travail, c'est là, aujourd'hui, c'est 80% de mon temps. Concrètement. Je passe ma vie à la tour, je passe ma vie à... Voilà, même dans ma vie privée, je réponds tout le temps aux messages, ça déborde, etc. Donc, si je ne fais pas quelque chose que j'aime, à quoi bon ? Enfin, tu vois, à quoi bon ?
Ça serait compliqué.
Tu vois ? Ouais. Et pour moi, c'est un luxe. J'estime que c'est une chance de vivre ça, de faire ce qu'on aime, et ça se provoque. Et faut vraiment le travailler. Enfin, pour moi, encore une fois, la créativité, c'est beaucoup de travail. Et voilà, il faut accepter ça, quoi.
Et du coup, ton gros objectif pour la suite ? Ou petit ?
Mon objectif, ce serait peut-être... de plus travailler avec des gens, c'est-à-dire de sortir du... Parce que je suis assez seule quand même dans le rancard et j'aimerais bien faire un travail un peu plus collectif, Pourquoi pas présenter un format avec quelqu'un d'autre, ou ça me plairait bien peut-être.
Du style la muse Laurent Carr.
Alors pourquoi pas.
C'est jamais, hein.
Mais ouais, de peut-être de co-animer quelque chose avec avec un homme, parce que j'aimerais bien qu'il y ait justement cette équilibre, cette équité. On l'a dans l'autre sens, on essaie d'y tendre de plus en plus, donc faut aussi tendre dans le genre masculin. Donc ouais, j'aimerais bien présenter quelque chose avec quelqu'un qui est complémentaire de moi, pas forcément, tu vois, qui me dit merde quand il faut, qui voilà. Ça, je pense que ce serait très chouette. Avec qui, évidemment, j'ai une grande complicité à l'antenne et ça se voit, mais...
C'est important.
Voilà, ça me plairait beaucoup de faire ça, ouais.
Trop bien, bah, j'espère que ça pourra se faire par la suite. Hein.
J'espère aussi, mais après, tu sais, c'est ça aussi, on prévoit rien, en fait. Moi, j'avais pas prévu de montrer ma gueule, j'avais pas prévu forcément de bosser à la RTS, j'avais pas prévu de vivre en Belgique, en Allemagne, en France. Enfin, tu vois, rien n'a été prévu, tu vois, c'est... Mm-hmm.
Et pourtant.
Ouais. Et pourtant, enfin, les choses se mettent en place et il faut saisir, quoi. Il faut pas avoir peur, en fait. Faut vraiment oser te dire, bah ouais, genre, pourquoi pas, quoi. Tu le sens pas. Enfin, moi, je pense aussi que justement, le processus créatif, il est extrêmement guidé par l'instinct. Et pour moi, si tu veux créer, il faut développer un petit peu ton instinct avant. Mmh. Tu vois, il faut te connaître. Et souvent, il faut faire un travail sur soi pour se connaître. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Et je suis entourée de gens qui l'ont beaucoup fait aussi. Et je vois une différence, quoi. Je vois une différence de traitement, de se poser les bonnes questions, d'être dans le débat. Moi, j'adore débattre. Quand j'organise un repas avec mes potes, on débat pendant des heures. Enfin, tu vois, tu te nourris comme ça. Et il y a plein d'idées qui germent de ce genre de choses. Il faut instinctivement, du coup, choisir des gens qui vont te stimuler. Il y a peu de choses que je sais, mais je sais quand même bien m'entourer. Et ouais. Et je remercie tous ces gens qui m'ont inspiré. Ces dernières années, donc voilà, il y en a eu beaucoup et c'est extrêmement précieux, quoi.
C'est trop bien. Et si tu devais, justement, en parlant un petit peu des gens, si tu devais inviter une personne à venir dans ce podcast, t'inviterais qui? T'aurais envie d'écouter qui?
Oh! Ah là, tu me régales. Attends, il y en a tellement. On peut voir grand, on peut...
Oui, après, je te garantis pas qu'ils seront là, du coup,
attends,
mais...
Attends. Alors, écoute... Tu verras, il y a plein de personnages dans ma tête qui tournent, genre lui, elle, lui,
c'est
qui.
C'est un défilé de tout le monde.
Ah non mais je sais. Je vais te citer la personne la plus cohérente que j'ai dans mon entourage, qui est atteignable plus ou moins facilement, qui s'appelle Neige Sanchez, qui est artiste. Elle a fait beaucoup de photos. Là, elle est en résidence à Berlin et qui est vraiment la personne avec la plus grande éthique que je connaisse. Tout confondu, et avec la cohérence la plus grande. Et c'est quelqu'un qui parle très bien, qui sait très bien s'exprimer, et je pense que ça ferait un excellent podcast. Voilà, elle a une vision de la créativité en plus vraiment très chouette, je vais pas spoiler, mais je te laisserai l'organiser. Okay. Maintenant t'es obligé.
Bah écoute, la porte est ouverte en tout cas, si tu nous entends,
ouais.
N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Et la traditionnelle question, un petit peu de fin... Je pense que tu la connais, j'ai l'impression, vu ton visage, comment tu vois.
Tu vois mon regard je vois malicieux.
Oui, je vois. Et du coup, ça m'a perturbé. Mais du coup, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le mot muse?
Alors, je ne suis pas du tout fan du mot muse, parce que déjà... Ouais, pas du tout. Alors, déjà, pour moi,
ça fait mal.
comme je t'ai dit, je suis franche.
Oui, oui.
Moi, il n'y a pas de pendant masculin, donc ça me dérange. Pour moi, le mot muse, si tu veux, ça... Vraiment, ça me fait penser à quelque chose qui est vidé de sa substance, qu'on va utiliser. Souvent, c'est une femme, donc la muse, qui est vidée de sa créativité. Et en fait, on lui donne pas de puissance créative propre. Et moi, ça me dérange. Mmh. Voilà. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, on a vraiment cette muse, tu sais, avec un drap en velours rouge, nu, qui est croqué par des artistes hommes, etc. Donc ça, ce mot-là, je ne l'aime pas. Je préférerais plutôt un mot du style le feu. Voilà. Ça okay. Me parle.
Bon, on va rebaptiser le podcast, voilà. J'ai plus le choix, mais... voilà. Merci.
Non, mais le feu, tu vois, le feu créatif, le feu, voilà. Ouais,
ça te parle plus.
Ça me parle beaucoup plus. Mm-hmm. Donc, ouais. Tu débrouilles avec ça, quoi.
Ouais, plus le choix. Alors, c'est quoi ton feu?
Mon feu?
Ouais.
Le feu.
Ah, tu me dis un mot, il faut l'assumer.
Ouais, il faut l'assumer. Bah, c'est vraiment ça, c'est le truc incandescent en toi que tu maîtrises pas qui doit sortir. Et pour moi, c'est ça. La créativité, c'est ça. C'est qu'elle vient quand elle est là, elle vient quand elle déborde, elle vient quand elle brûle, elle vient quand elle te saisit, elle vient quand tu peux pas faire autrement, elle vient quand t'as des images en tête, quand t'as des sons, quand t'as des personnes que tu dois rencontrer. Pour moi, c'est ça.
Ouais, brûlante comme un feu, comme tu dis. Ah ouais. Ça me parle bien, ce que tu dis. Ouais.
Pour moi, c'est vraiment ça.
Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup.
Bah merci à toi, c'était trop cool.
Et du coup, vous pouvez suivre Margot sur Instagram. Donc son Insta, c'est margot.delevo.
Ouais.
Si je le dis bien juste,
ouais, c'est
tout bon. Ouais, c'est super. Ou aussi voir tous les épisodes du Rancard sur le compte directement de la RTS. Mais bien sûr, on mettra tout ça donc sur l'Insta. Donc c'est aussi, je me fais une petite pub au passage, allez, une bonne raison de venir nous suivre. Parce qu'on va mettre tout ça. Donc nous, c'est la Muse Podcast. Le mot que tu n'aimes pas, désolé, c'est pas le feu, mais c'est la muse. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode pour en faire profiter un maximum de personnes. Du coup, je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous et ciao, ciao.